Où sont passés les Romains? À la découverte de Muséal.
Bonjour. Savez-vous que vous pourriez goûter le vin que les Romains fabriquaient il y a plus de 2000 ans? Au musée site de Saint-Romain-en-Galles, face à Vienne, de l'autre côté du fleuve Rhône. Depuis bientôt 20 ans, on vendange et on vinifie comme à l'époque romaine. C'est ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale. Christophe Caillot, archéologue, va nous présenter, après l'agenda de Muséal, ses expériences plutôt surprenantes. C'est les vacances, et pendant les vacances, Muséal n'oublie pas de s'animer. Muséal ouvre également tous les jours de 13h30 à 17h30 jusqu'au 6 novembre. Il reprendra ensuite ses horaires dits classiques, 13h30-17h30, sauf les mardis et jeudis, et cela jusqu'au 4 décembre prochain. Durant ses vacances d'automne, Muséal propose des ateliers pour le jeune public. Ateliers qui ont lieu du lundi au vendredi, sauf mercredi 26 octobre, à 14h et 16h. Ils sont accessibles dès 4 ou 7 ans. Les enfants fêteront Halloween comme les Gaulois en réalisant une lanterne. Ils vont découvrir les amphores et réaliseront la leur. Ils fabriqueront même une pièce de monnaie avec l'atelier Sester et compagnie ou une machine de théâtre à l'occasion de l'atelier Machine des ronds. Attention, le nombre de places est limité. Pensez à réserver très rapidement auprès de Muséal. Muséal, qui, notez-le aussi, va exporter deux de ses ateliers le vendredi 28 novembre dès 14h au Chélard, à l'Arche des Métiers. Tiens, une autre destination possible pour les vacances. Autres ateliers, ils ont lieu les mercredis 26 octobre et 2 novembre. Atelier massage bébé à 10h pour les 0-3 ans. Sophrologie enfant à 11h30 pour les 3-6 ans. Deux ateliers animés par Elsa Johannard, sophrologue et réflexologue. Atelier binôme parents-enfants. Autre instant pour le jeune public, le spectacle des frères Duchoc, le grand show des petites choses. Il aura lieu mercredi 26 octobre à 16h. Un spectacle de marionnettes en 9 tableaux qui aborde des thèmes profonds comme l'abandon des animaux ou l'acceptation de la différence, et d'autres plus légers comme le patinage artistique ou la difficulté d'être Superman. Le grand show des petites choses, c'est mercredi 26 octobre à 16h à Muséal, tarif 4 à 6 euros dès 6 ans, sur réservation. Et comme Muséal n'oublie personne, c'est le samedi 12 novembre qu'une conférence est proposée avec l'archéologue plongeur du musée d'Arles, David Djaoui. Celui-ci viendra nous parler de ce qu'on peut trouver dans les fonds marins et de ce qui a été découvert autour du thème du vin et de l'expo temporaire actuelle de Muséal. Pipettes et autres découvertes, ce sera à 17h30, samedi 12 novembre, en accès libre. Direction à présent Saint-Romain-en-Galles, face à Vienne, de l'autre côté du fleuve Rhône. C'est là que se trouve le musée site de Saint-Romain, où l'on retrouve Christophe Caillot. Il est le responsable de l'archéologie expérimentale, une discipline qu'il nous présente avant de nous parler du thème de ce mois, vendange et vinification à l'époque romaine.
L'archéologie expérimentale, c'est une discipline annexe de l'archéologie, c'est une discipline scientifique en tout cas, qui vise à essayer de retrouver, de reconstituer, de mieux comprendre les gestes, notamment des artisans du passé. C'est pour cela que nous avons mis en place au musée une plateforme expérimentale où on peut retrouver des reconstitutions de fours de potier, de fours à pain, de fours de verrier, de fours à pois également, pour essayer de mieux comprendre les processus techniques qui menaient en fait à la fabrication de la céramique ou du verre par exemple.
Avec les outils d'époque.
Voilà, on essaye effectivement de retrouver les techniques avec potentiellement les outils qui étaient utilisés à l'époque romaine, mais surtout de mieux comprendre comment était fabriqué tel ou tel objet, tel ou tel matériau. Par exemple, pour la poix, on a mis en place des fours constitués de grandes céramiques. C'est en refaisant ces structures et surtout en le faisant fonctionner qu'on arrive parfois à avoir de nouvelles informations qui viennent éclairer ce qu'on a pu fouiller auparavant.
Et à ce titre-là, vous faites donc de l'expérimentation autour des vendanges et de la vinification à l'époque romaine.
Exactement, voilà, ça fait maintenant depuis presque 20 ans, depuis 2004-2005, qu'on a mis en place des expérimentations de vinification à la romaine. Ça a commencé dans le cadre d'une grande exposition que nous avions accueillie en 2004 au musée, qui s'appelait « Le vin, nectar des dieux, génie des hommes ». Et donc on avait essayé de retrouver un peu le goût des vins de l'époque, qui nous a conduit à installer en fait des reconstitutions de pressoirs sur le site archéologique. On a également planté de la vigne en 2006-2007 pour ouvrir un espace au public qui s'appelle le Domaine des Allobroges, où chaque année, au cours d'un événement qui s'appelle Vinalia, nous organisons des vendanges romaines, c'est-à-dire que on va cueillir le raisin et puis on va le fouler et le presser comme à l'époque romaine. On essaie de reconstituer un petit peu toute la chaîne opératoire du vin comme cela se déroulait dans l'Antiquité.
Est-ce que ça vous a apporté de nouvelles connaissances à travers cette expérimentation autour de Vinalia ?
Alors un des objectifs quand on a commencé ces vinifications expérimentales, c'était aussi d'essayer de comprendre, à la lueur des textes de l'Antiquité, de comprendre comment les Romains arrivaient à conserver le vin. C'est un gros problème pour nous, puisque c'est vrai que les Romains, a priori, ne connaissaient pas le soufre en matière d'œnologie. Et donc, ils avaient inventé tout un tas de recettes avec différents ingrédients pour essayer de conserver le vin qui, naturellement, devient vinaigre, hein, si on n'arrive pas à le faire évoluer dans de bonnes conditions. Et donc, c'est ce qui nous a guidés depuis une vingtaine d'années, en essayant certaines des recettes qui sont notamment dans les textes des agronomes, comme Pline, par exemple, ou Columel.
Et ça marche ?
Alors, ça fonctionne plutôt bien. On a testé plusieurs choses. Par exemple, dans les toutes premières années, on avait essayé l'eau de mer, qui est très souvent citée chez les agronomes, notamment dans les vins grecs. L'eau de mer, pourquoi ? Parce qu'elle est salée et que le sel est un excellent conservateur. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien, hein, jusqu'au même au début du XXe siècle en France, on avait le droit de rajouter un petit peu de sel dans le vin, donc les anciennes s'y étaient pas trompées. Et puis on a testé également d'autres recettes, entre guillemets, notamment ce qu'on appelle le défroutum. Alors le défroutum, c'est un moût réduit dans lequel on va faire revenir des coins, des plantes aromatiques. On tourne tout ça avec un balai fait avec des branches de fenouil, et puis une fois que c'est filtré, on le rajoute au vin. Alors on va pouvoir gagner un petit peu d'acidité, ce qui n'est pas négligeable, et puis surtout c'est comme si on allait chaptéliser le vin, c'est-à-dire comme si on allait lui rajouter un petit peu de sucre, puisque ce défroutum, en fin de compte, c'est un sirop très concentré en sucre, et ça permet du coup d'assurer une bonne conservation au vin. On a pu le constater là, sur des millésimes un peu anciens de vin romain, que ça pouvait se conserver assez bien.
Alors la conservation, elle ne se faisait pas en bouteille, on était avec les amphores.
Voilà, la conservation du vin à l'époque romaine, elle va se faire plutôt en amphore, effectivement. Alors au moment des vinifications, on va utiliser aussi traditionnellement ce qu'on appelle des dolias. C'est des grandes jarres hein, qui peuvent faire jusqu'à environ 1500-1600 litres de capacité. La plupart du temps, elles étaient enterrées, ces jarres, dans les chais des villas viticoles. Et donc on était obligé par contre de les enduire de poids pour les rendre étanches, tout comme les amphores d'ailleurs. Et donc les amphores, qui sont le conteneur par excellence des liquides dans l'Antiquité, du vin en particulier, étaient également poissées. Ces amphores vont servir au transport du vin, bien évidemment, mais vont aussi servir à la conservation du vin. On nous parle de caves chez certains grands personnages romains, où on va faire vieillir le vin dans les amphores pendant des dizaines et des dizaines d'années.
Est-ce qu'on peut parler maintenant du goût ? Est-ce qu'on est très éloigné de ce que l'on peut connaître aujourd'hui ?
Alors c'est vrai, quand on fait goûter ces vins aujourd'hui, par exemple à nos visiteurs, ils sont toujours très surpris hein, par les arômes qui se dégagent de cette production. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de boire aujourd'hui. Il faut bien imaginer que les vins de l'époque romaine ne sont évidemment pas ceux que l'on boit aujourd'hui. Hein. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a certainement plein d'arômes différents dans les vins. On peut avoir du vin comme de la piquette qui va être réservé aux esclaves, et puis des grands crus qui viennent d'Italie, qui viennent parfois de Grèce, qui serait à comparer au vin blanc liquoreux à l'instar de nos sauternes d'aujourd'hui. C'est plutôt ce type de vin qui occupe un peu le sommet de la pyramide des crus de l'époque. Et donc on a plutôt des vins qui sont sucrés, moelleux, liquoreux. Tout ça vient aussi du fait que l'on pratique ce qu'on appelle le passerillage sur souche ou sur clé, c'est-à-dire qu'on va faire sécher les raisins soit sur pied, soit une fois qu'on les a cueillis. On les fait sécher au soleil, on va faire évaporer l'humidité, ça va concentrer les sucres. Et donc ça va permettre d'élaborer des vins très sucrés, très liquoreux, ce qui va leur assurer aussi une bonne conservation. Donc c'est surtout ce type de vin qui était recherché et que l'on allait essayer de faire vieillir encore une fois assez longtemps. Hein. On parle de vins comme le Falerne, qui est un vin que l'on va retrouver du côté de la Campanie, qui est un vin très réputé. Et on dit dans les textes de l'époque qu'il va obtenir vraiment sa maturité au bout de 10, 15 ans, 20 ans de vieillissement.
Parmi les différences notables de ces plus de 20 siècles qui nous séparent des vins romains, Christophe Caillot en retient une particulièrement.
Les Romains n'avaient pas du tout conscience de tout ce qui concerne la fermentation alcoolique. Ce sont des phénomènes qu'ils avaient du mal à comprendre. Hein. Pour eux, c'était très mystérieux. Donc il faut attendre Pasteur dans la deuxième partie du 19e pour découvrir le rôle des levures, ces micro-organismes qui vont transformer donc le sucre en alcool. Ils possédaient, les Romains, un savoir-faire œnologique qui était quand même assez poussé, dû aussi à toute cette expérience qui s'était accumulée depuis des millénaires. Hein. On peut dire quand même qu'on fait du vin depuis presque 10 000 ans. Donc ils ont accumulé quand même des savoir-faire qui sont tout à fait intéressants, mais qui sont empiriques. Voilà, ils n'arrivent pas forcément à expliquer tout ce qu'ils voyaient et comment le vin pouvait se transformer petit à petit, évoluer. C'est vraiment ça qui est intéressant. Et donc, c'est vrai que tout ça, la science moderne a permis d'en savoir beaucoup plus de nos jours.
Pour vous plonger dans les vendanges et la vinification à l'époque romaine, rendez-vous en septembre 2023 à Saint-Romain-en-Galles, où se tiendra une nouvelle édition de Vinalia, désormais une biennale. Et puis n'oubliez pas de visiter à Muséal l'exposition temporaire « Grande terre de vin, le terroir révélé par l'archéologie ». Merci d'avoir suivi ce rendez-vous. Où sont passés les Romains ? Il est à présent terminé pour cette année, puisque Muséal sera fermé à compter du 4 décembre. Il réouvrira toutefois ses portes et ses ateliers jeunes publics durant les vacances de fin d'année.